Europe 1, il est 18h.
Ce frère a été tué comme un chien. Maintenant, notre temps est venu. Et tant qu'ils ne nous traiteront pas d'égal à égal, vous nous verrez dehors.
L'Amérique s'embrase jusqu'aux abords de la Maison Blanche. Donald Trump, mis à l'abri dans son bunker, accuse la gauche radicale terroriste, mais pas un mot sur le racisme.
Nous sommes là où tout a commencé à Minneapolis avec notre correspondant sur place ce soir.
En France, J-1, demain, la liberté redevient la règle. La liberté, par exemple, de prendre un verre en terrasse.
J'ose espérer que je réussisse à avoir 8 tables de 4, mais c'est possible que je puisse juste mettre 5.
Dernier préparatif, des tables jusque dans la rue à Paris et des restos, et donc qui mesurent les distances entre les tables partout en France.
Et première frontière à rouvrir aujourd'hui, Andorre. Et déjà, la rue est sur les boutiques détaxées.
Dans ce journal aussi, les nouvelles primes à l'achat de voitures neuves entrent en vigueur.
Les municipales, tractation à tout va, la veille du dépôt des listes pour le second tour.
Et puis vous avez le nez qui pique, c'est normal, gros pic d'allergie.
Ça va irriter toutes les muqueuses des yeux, on va avoir des conjonctivites, les yeux qui pleurent, qui grattent. Et puis éventuellement de l'asthme, ça peut atteindre les bronches, donc on peut tousser, avoir de l'asthme également.
La Bourse de Paris démarre la semaine dans le vert, plus 1,43% à 4 762 points.
Bonsoir et bienvenue à Anissa, quel temps pour demain ?
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Vous le constatez, il fait chaud, il fait beau. Demain, c'est encore une journée très ensoleillée sur la moitié nord, puisque dans le sud, les orages éclatent. Ils pourront même être très violents par endroits. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
La dernière image en date aurait pu être celle d'un carnage. Un énorme camion citerne qui fonce sur la foule des manifestants qui s'écartent de justesse. On a frôlé le pire sur une autoroute de Minneapolis. L'Amérique fracturée s'embrase depuis la mort d'un homme noir lors de son arrestation par un policier blanc. C'était à Minneapolis. C'est là que vous vous trouvez pour Europe 1, Xavier Yvon. Le chaos gagne à présent de nombreuses villes. Et l'image la plus marquante de ces dernières heures, bien c'est celle de Washington.
Ah oui, c'est sûr que c'est celle qui résume l'état du pays. Hein. C'est le fameux obélisque de Washington entouré de fumée noire hier soir. Couvre-feu avancé à 19h aujourd'hui dans la capitale. À New York, c'est le fameux pont de Brooklyn qui a été coupé et envahi par une foule de manifestants. Une protestation pacifique au départ qui s'est terminée dans la casse, notamment sur la très chic et touristique 5e avenue. Dans le Kentucky, un homme est mort après des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Il y a eu aussi des affrontements violents à Philadelphie, des pillages en Californie. En tout, la garde nationale a été déployée dans une douzaine d'États.
Et à Minneapolis, hein, le point de départ, Xavier, les forces de l'ordre semblent avoir repris le contrôle.
Oui, justement, après un très impressionnant déploiement de force, ça fait deux nuits que c'est plus calme. Alors, il y a des confrontations et des arrestations au moment du couvre-feu à 20h, comme hier soir. Mais ensuite, pas de bâtiments en feu ni de destruction, comme on avait pu en voir ces derniers jours. Le seul endroit de la ville où les manifestants restent toute la nuit pacifiquement, sans intervention policière, c'est le carrefour où est mort George Floyd. C'est devenu un mémorial. Écoutez ce qu'en dit Jim, que j'ai rencontré sur place.
On doit faire revenir l'attention sur la raison qui a fait que nous sommes sortis tous ensemble. Cette raison, c'est quoi ?
Ce frère a été tué en plein jour, comme un chien.
Maintenant, notre temps est venu. Pas d'actes violents, ça c'est ce qu'ils veulent. Notre boulot, c'est de faire face. Et tant qu'ils ne nous traiteront pas d'égal à égal, vous nous verrez dehors.
Et Donald Trump, Xavier, que dit-il ? Est-ce qu'il tente de faire retomber la pression ?
Alors, on ne l'entend pas publiquement, il ne s'exprime que par des tweets, ils sont incendiaire. Le président américain est plutôt en train de mettre de l'huile sur le feu. Il impute les violences au mouvement antifasciste d'extrême gauche et ne semble pas du tout voir l'émotion dans la communauté noire. Et il vient de s'entretenir par téléphone avec tous les gouverneurs des États-Unis. Et ça vient de tomber, la conversation a fuité. C'est un Donald Trump en rage qui a appelé les gouverneurs à une répression maximale avec des arrestations massives.
Xavier Yvon à Minneapolis pour Europe 1 et des personnalités du monde du sport s'associent aux manifestants comme l'ancienne star du basket Michael Jordan qui a publié un communiqué qui dénonce le racisme enraciné ou encore le champion du monde de Formule 1, le britannique Lewis Hamilton.
Et on va y revenir juste après le journal avec l'ancienne conseillère de Bill Clinton, Léa Pizarre. Elle est à New York, elle est mon invitée en direct ce soir.
D'abord l'autre grand titre ce soir. Nous vivons les toutes dernières heures des restrictions de déplacement. La barre des 100 km sautera à minuit. La liberté va redevenir la règle. Deuxième phase du déconfinement avec un changement majeur. Nous allons retrouver les restaurants.
Avec un mètre entre chaque table et des serveurs masqués. Ouverture autorisée partout en France, mais uniquement en terrasse hein, pour l'Île-de-France qui est, notons-le, toujours orange.
Du coup, les restaurateurs et les cafetiers vont pouvoir s'étaler un peu sur les trottoirs ou sur les places de stationnement. Dernier préparatif. Donc, Pierre Herbulot, vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris.
Oui, et dernier casse-tête aussi, prenez un papier, un crayon, je vous pose le problème de Cheyenne. Devant son restaurant iranien, il y a 7 mètres de longueur de trottoir et 9 mètres de place livraison qu'elle a demandé à la mairie. Sachant qu'une table de 2 personnes fait environ 1 mètre de largeur, qu'il faut compter les chaises et un autre mètre supplémentaire d'espace, plus un passage pour les piétons, combien, Sébastien, la restauratrice peut-elle servir de couvert demain midi? Pas facile
pas,
de répondre.
Je ne l'ai pas fait.
Eh bien, pas facile pour Cheyenne non plus, écoutez-la.
J'ose espérer que je réussis à avoir 8 tables de 4, mais c'est possible que je puisse juste mettre 5.
Voilà, elle n'en sait rien, tout simplement parce qu'elle n'a pas pu faire de simulation. Elle attend toujours la livraison de ses tables d'extérieur, contrairement à Stéphane. Lui tient un bistrot dans la même rue et pourrait, en théorie, accueillir 25 clients, si la mairie le veut bien.
On attend l'autorisation dans la journée, je pense que ça va arriver pour la terrasse éphémère selon laquelle j'y aurai droit normalement, quoi. Mais bon, ils nous ont envoyé le mail hier à 17h et je l'ai vu à 18h. J'ai envoyé les papiers hier aussitôt dans la foulée, maintenant j'attends la réponse, quoi.
L'autorisation, Emeric l'a obtenue, tout comme ses barrières de chantier pour protéger sa terrasse agrandie. Mais il fait face à un autre type de problème.
J'ai demandé 2 emplacements de stationnement.
Donc là et là. Là, il y a une voiture garée, en l'occurrence.
Voilà, bon, mais je vais voir que ça sera au petit bonheur la chance demain.
Bref, c'est loin d'être simple pour tout le monde. Mais les restaurateurs parisiens encaissent. Demain, ils rouvrent et c'est le plus important.
Voilà, pas facile. Pierre Herbulot à Paris pour Europe 1 et pour encourager les Français à consommer. Le plafond d'utilisation des tickets resto, des titres restaurants, va doubler. Il passe à 38 euros au lieu de 19. Ils seront même acceptés le week-end et les jours fériés.
Et ces restaurateurs, on leur garde une large place à partir de 19h30 sur Europe 1. On vous donne la parole, ces derniers préparatifs, les ambitions évidemment pour les semaines à venir. On en parle avec vous également, les auditeurs, au 39-21. Dans les transports en commun, le niveau de trafic est annoncé à 90% en Ile-de-France. Certaines stations fermées vont rouvrir. Attention, il vous faudra toujours l'attestation de votre employeur pour voyager aux heures de pointe. On en parle aussi avec mon invité à 19h20.
Et dans les trains partout en France, la limite d'occupation d'un siège sur deux va être levée. Les collèges vont pouvoir ouvrir partout, les lycées en zone verte. Des assouplissements sont aussi annoncés dans les EHPAD pour ce vendredi, avec reprise des visites, mais pas plus de 2 personnes à la fois.
Et puis, petit à petit, les frontières vont rouvrir avec nos voisins. La première a été celle de la principauté d'Andorre ce matin même.
Et cela a provoqué une ruée sur les boutiques détaxées dès l'aube, hein, Benjamin Péter.
Oui, les premiers se sont présentés à 4h du matin. Si bien, très vite, l'accès depuis l'Ariège s'est retrouvé bloqué, un bouchon d'une bonne dizaine de kilomètres, notamment à cause des contrôles à la frontière. Parmi les premiers arrivés et les premiers repartis aussi, il y a Didier et Jessica qui habitent la vallée.
On est venu chercher tout ce qu'on avait, cigarettes et alcool. Comme on habite juste à côté, ça fait qu'on est monté de bonne heure ce matin à 6h30. Ça fait du bien au niveau portefeuille.
Ouais, c'est juste le prix des clopes qui me manquait. Après, en soi, de monter ici, non, ça me manque pas.
La cartouche, ça vous revient à combien?
Là, 35. Et en France, je dirais 80-90 euros.
Dans les multiples supermarchés, masque obligatoire, gel à l'entrée, les 77 000 habitants du pays ont tous été testés au moins 2 fois. Pour Jean-Jacques Carrier, le président des commerçants, l'important, c'était de rassurer les clients.
On a fléché les trottoirs pour faire un genre de sens de circulation pour pas que les gens se croisent. À chaque passage piéton, il y a des pantins dessinés avec l'espace de 1,50 m pour appeler sans arrêt aux gens qu'ils gardent les distances et tout. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est qu'on reparte et surtout dans de bonnes conditions.
Et beaucoup de magasins comme le sien ont décidé de tester le personnel en contact avec les clients étrangers tous les 15 jours pour éviter toute reprise de l'épidémie dans le pays.
Benjamin Péter, dans les Pyrénées, à la frontière avec Andorre, sachez enfin que Stop Covid, l'application mobile qui doit permettre de contacter plus vite tous ceux qui ont été en contact avec un malade, sera disponible et téléchargeable sur votre smartphone demain midi. On vous donnera le mode d'emploi dans le journal de 19h.
Il est 18h08 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Un chiffre sur le front de l'économie. Le marché de l'automobile a à nouveau plongé au mois de mai. Les immatriculations divisées par 2 par rapport à l'an dernier.
Moins 50%, Clément Le Saffre. Mais en avril, c'était encore pire. C'était quasi moins 90%. Ça veut dire que la reprise est amorcée dans les concessions?
Les constructeurs l'espèrent en tout cas. Et dans les faits, elle semble, oui, bien pointer le bout de ses phares. Si on regarde le détail du mois de mai, on s'aperçoit que les premières semaines ont été catastrophiques. À moins 90%, c'était les bases du mois d'avril. Mais depuis quelques jours, les concessions peuvent à nouveau accueillir les clients, vendre des voitures et au passage, honorer les commandes passées avant le confinement, 2 semaines qui suffisent donc finalement à redresser un peu la barre. La reprise, c'est une chose, mais sur le moyen terme, les constructeurs misent surtout sur les aides à l'achat. Dès aujourd'hui, la prime à la conversion est élargie et le bonus écologique pour un véhicule électrique passe de 6 à 7000 euros. François Roudier est le porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles.
Pour les gens qui sont convaincus et qui voulaient acheter un véhicule, les incitations sont extrêmement positives. Les 200 000 voitures qui vont bénéficier de la prime à la conversion vont partir, c'est évident. Après, la problématique est plus lourde vis-à-vis des clients qui ne sont pas vraiment convaincus. Pour l'achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables, c'est compliqué parce qu'il faut faire essayer le véhicule, donc ça prend un peu plus de temps.
Alors il y a, on vient de l'entendre, encore de l'incertitude sur cette relance dans l'automobile. Résultat, la perspective pour 2020 reste très négative, entre -20 et -30% de voitures vendues sur l'ensemble de l'année.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Les règles du chômage partiel évoluent pour le mois de juin. Si vous êtes soumis à ce régime, cela ne va pas changer le montant que vous toucherez. En revanche, les entreprises vont devoir participer à hauteur de 15%. L'État ne prendra plus en charge la totalité de l'indemnisation.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'était avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et la politique qui reprend ses droits. Intense tractation dans plusieurs grandes villes en vue du second tour des municipales. C'est à suivre dans votre édition de 18h.
Et puis la France en plein rhume des foins. Gros pic d'allergie aux graminées.
18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et c'est aussi un signe que la vie normale reprend, hein, bel et bien. L'heure est à nouveau tractation politique et aux stratégies électorales, puisque le second tour des municipales doit avoir lieu dans 4 semaines, 28 juin.
Et les listes doivent être déposées demain. Dernier délai, Adrien Beck. Du coup, les alliances se forment dans plusieurs grandes villes.
Oui, avec plusieurs situations qui évoluent et qui vont évoluer ces prochaines heures. À Toulouse, par exemple, le maire sortant Jean-Luc Moudenc va devoir affronter la gauche Unie, la candidate socialiste s'est rangée cet après-midi derrière son concurrent écologiste. À Nantes, cette fois, accord entre la maire PS Johanna Roland et les Verts, à l'inverse de Lille, où la rupture est consommée entre Martine Aubry et ses anciens alliés. La maire de Lille va donc se retrouver au milieu d'une triangulaire PS, Verts, République en marche. Négociation encore en cours à Lyon entre Gérard Collomb et les Républicains. Lyon, où l'on rappelle que la République en marche ne soutient plus personne. À Marseille, enfin, timide rapprochement ces dernières heures entre la candidate LR Martine Vassal et le dissident Bruno Gilles, avec à la clé des désistements dans certains secteurs alors que la gauche est arrivée en tête au premier tour.
Et zoom inévitable dans la capitale. Alors à Paris, on en est où ?
Eh bien, Cédric Villani, le mathématicien qui s'était présenté comme dissident à La République En Marche, vient d'annoncer dans Le Parisien qu'il terminera sa campagne sans alliance ni ralliement. Il se maintient donc dans le 14e, là où il est tête de liste. C'est aussi le seul arrondissement où une de ses listes pouvait se maintenir, sans interdire toutefois à ses équipes de négocier par arrondissement. Et puis, eux ne sont pas encore au bout du tunnel des négociations. Anne Hidalgo et les Verts, bien sûr que ça va le faire, on fait juste durer le plaisir, sourit un adjoint. Optimisme plus mesuré côté écolo, où l'on nous assure qu'aucun accord n'est encore totalement ficelé. Principaux points d'achoppement, outre le nombre d'adjoints et de mairies d'arrondissement, des discussions sur les projets d'urbanisme, les discussions qui se font par visioconférence pourraient durer encore toute la soirée.
Voilà, même si c'est peu probable que ça n'aboutisse pas, hein, entre Hidalgo et les Verts. Merci Adrien Beck du service politique.
On va y revenir d'ailleurs, hein, c'est municipal, l'actualité politique en général. Les rumeurs de remaniement, c'est le programme des grandes voix dans quelques minutes, 18h30. Soyez au rendez-vous avec le retour de nos grandes voix historiques, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou dans ce studio précisément.
On termine avec le nez qui pique et un mouchoir à portée de main. Cela n'a rien à voir avec le sujet précédent, c'est la période du rhume des foins. Alerte rouge sur presque toute la France, en cause les pollens de graminées qui émanent des pelouses. Tiens, pile au moment où on a le droit de s'y allonger, c'est vraiment pas de bol. Écoutez les conseils de cet allergologue, Édouard Sève.
L'hiver a été assez doux et le printemps, on a eu un petit peu de pluie, puis maintenant on a beaucoup de soleil. Ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de plantes qui poussent. Donc les graminées, c'est tout ce qui est un peu ce qu'on appelle les mauvaises herbes qu'on a dans les jardins, qu'il y a sur le bord des routes, et aussi surtout tout ce qui est champs, les champs de blé, de seigle, d'orge. Ça va irriter toutes les muqueuses des yeux. On va avoir des conjonctivites, les yeux qui pleurent, qui grattent, le nez qui éternue, le nez rouge, et puis éventuellement de l'asthme. Ça peut atteindre les bronches, donc on peut tousser, avoir de l'asthme également. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est limiter l'exposition tant qu'on peut avec les pollens. Le pic de pollen est le midi, quand il fait beau, qu'il y a du vent, donc éviter de sortir le midi. Fermer les fenêtres de la maison la journée pour éviter que les pollens rentrent à l'intérieur. Du coup, limiter le jardinage. On peut porter les masques contre le Covid. Ça va protéger également un peu contre les pollens. Mettre des lunettes de soleil. Et puis prendre une douche dès qu'on sort pour rincer ce qu'on peut avoir sur soi. Éviter d'avoir du pollen dans les cheveux ou sur le visage le soir ou la nuit. Mais ça ne va pas finir tout de suite.
Voilà, le masque contre le Covid, ça protège aussi des allergies. C'est
tellement
une information.
Bon.
Édouard Sève, vice-président du Syndicat national des allergologues. Il répondait à Ève Roger.
Merci beaucoup Sébastien. Vous revenez avec de nouvelles infos à 18h30.